Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Jamila, c'est Topin.
Au sommaire, ils étaient des dizaines de milliers de Maliens dans les rues à Bamako ce soir pour soutenir la junte militaire au pouvoir et dénoncer les sanctions récentes prises par la CEDEAO et l'UOMOA. Et pendant ce temps, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, lui a présidé ce vendredi un conseil supérieur extraordinaire de la défense nationale. Il était question de valider le plan de riposte du gouvernement face aux sanctions de la CEDEAO et de l'UOMOA, tout en gardant la porte ouverte au dialogue. Puis notre éditorialiste Wézin Louis Houlon nous fera le décryptage des sanctions de la CEDEAO et de l'UOMOA. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Au Mali, la population malienne a répondu favorablement à l'appel du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Plusieurs dizaines de milliers de Maliens étaient dans leur rue à Bamako, précisément à la place de l'indépendance selon le média studio Tamani, pour soutenir la transition et dénoncer les sanctions récentes prises par la CEDEAO contre la junte au pouvoir au Mali. Les chefs d'État et des gouvernements des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont adopté dimanche dernier de lourdes sanctions contre le Mali en réponse au retard pris dans la tenue des élections après une transition de 18 mois. Toujours au Mali, le président de la transition, Assimi Goïta, a présidé ce vendredi 14 janvier 2022 un conseil supérieur extraordinaire de la défense nationale. Il s'agissait de valider le plan de riposte du gouvernement aux sanctions de la CEDEAO et de l'UOMOA tout en restant ouvert au dialogue. Il s'agit d'un plan qui a été annoncé immédiatement après les sanctions inhumaines et illégales prises par la CEDEAO et l'UOMOA contre notre pays le 9 janvier 2022, a précisé le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga. Toujours selon le colonel Maïga, il s'agit d'un plan exhaustif qui essaie de prendre en compte les priorités et les préoccupations de la population malienne en termes d'approvisionnement en produits de première nécessité. Aussi s'agit-il d'un plan transversal qui comporte plusieurs composantes, des questions diplomatiques, géopolitiques, économiques et financières, ainsi que des questions sociales, a indiqué le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Un décret nommant environ 200 personnes au poste de commandement contesté par l'opinion nationale a été annulé par le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby. Signé le 31 décembre 2021, les énarques formés à l'ENA, à l'École nationale d'administration et mis à la disposition du ministère de l'administration du territoire, qualifient cette nomination de ridicule et d'insulte à leur endroit, nous dit N'Djamena Abba André Dieudonné, correspondant de Radio Oméga.
On a écrit même au ministre de l'administration du territoire plus de 3 fois. On lui a expliqué, il a demandé la liste des énarques à 3 reprises. Le décret passe, on voit aucun énarque n'est nommé au poste de commandement aujourd'hui.
Grogne des énarques sortis de l'ENA, École nationale d'administration, suite à la publication du décret portant nomination des sous-préfets du 31 décembre 2021 dans des unités administratives. Ils interpellent le chef de la junte militaire au pouvoir, c'est interdit du décret dans l'anonymat.
Quand il y a un projet de nomination au ministère de l'administration, du territoire, tous nos hommes politiques envoient ces militants là-bas pour demander des postes au détriment des agents du ministère de l'administration du territoire et des énarques, des cadres du pays formés dans une grande école de renommée comme l'ENA. Nous disons non, unanimement non, et nous disons au président du CMT de prendre l'affaire là dans sa main.
Aujourd'hui, vous allez trouver les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets, ce sont des militaires. Ça veut dire que le ministère de l'administration du territoire est devenu ministère de défense. Tel que nous, d'autres, le travail que nous faisons, c'est le travail des plantons. Un administrateur formé qui aujourd'hui fait le travail des plantons. Même certains plantons sont mieux que nous.
Quelques jours après, le président du conseil militaire de transition revient sur sa décision. Il a pris un autre acte pour annuler ludit décret contesté. Pour le juriste et ancien chercheur à l'ENA du Tchad, Dr Sitak Yombatina Beni, c'est une erreur très grave qui devrait entraîner la démission du chef du gouvernement, puisque, dit-il, le poste de sous-préfet a été supprimé en 2018.
Dans les ordonnances qui régissent, n'est-ce pas, les collectivités territoriales centralisées et tout ça, il faut une loi pour créer, n'est-ce pas, les unités administratives. À ce jour, il n'y a pas une loi qui a créé tout ça, ces unités administratives. Et donc, tant vous n'avez pas créé, n'est-ce pas, les unités administratives par une loi, vous ne pouvez pas nommer des gens. Ces gens-là, ils vont administrer qui? Parce que les limites ne sont pas tracées. Donc, que cela échappe à toute une administration, depuis le ministère de l'administration jusqu'à la présidence de la République. Et c'est plus tard qu'on se rend compte finalement que ce décret n'aurait jamais dû exister. C'est pour ça qu'on l'annule. Donc, vous voyez, c'est quand même très grave pour une administration au 21e siècle. Ça montre à quel point nous avons des gens qui tâtonnent. En principe, dans un pays normal, le Premier ministre aurait démissionné. Ou on devait le faire démissionner. Parce que c'est très grave, n'est-ce pas, de faire signer un décret avec aucun objet. Et c'est dommage pour l'administration qui, finalement, est tellement légère.
Dr Sitak Yombatina Beni estime que ces personnes ont subi des préjudices et qu'elles doivent porter plainte contre l'État tchadien.
Il y a des gens qui ont des préjudices, qui sont allés, ils ont eu leur ordre de mission, on leur a donné même le bâton de commandement et tout ça. Il y a d'autres qui ont même été installés. Donc il y a quand même des préjudices. Il y a des gens quand même qui ont fait des dépenses. Il y a des gens quand même qui ont voyagé. Il appartient à ces personnes-là, justement, de saisir le juge administratif. Parce que l'État ne peut pas dire je me suis trompé. Comment vous pouvez imaginer ça? L'administration ne peut pas dire que j'ai fait des erreurs. Je me suis trompé. Non. Donc il y a quand même un problème. Ça fait quand même 10 jours, non? Finalement, et qu'on annule ça entre-temps, beaucoup de choses sont passées.
Ce dysfonctionnement intervient quelques mois après la note circulaire du premier ministre de transition selon laquelle, dorénavant, toute proposition de nomination doit obéir aux critères de compétence, d'expérience et d'équité en suivant les règles de procédure. Abba André Dieudonné Ndjamena pour Radio Omega.
Ce jeudi 13 janvier 2022, le président de l'Assemblée nationale, Bala Sakandé, a reçu en audience le président du Haut Conseil pour le dialogue social et la réconciliation. L'objet de cette visite est de faire connaître la Commission, ses activités passées, mais aussi ses perspectives. Suivons son intervention au micro de Marina Ouedraogo.
En termes de perspectives, nous avons un ensemble d'activités que nous allons mener bientôt. Tel que par exemple après le discours du chef de l'État, il y a des promesses ou du moins des attitudes que le président a annoncées. Il faut que nous anticipions et former les gens autour donc de ces différents problèmes là. Il y a ça et il y a d'autres activités que nous aurons en perspective, telles que par exemple la formation de 200 à 300 jeunes sur les vertus du dialogue social. Nous l'avons déjà fait à Ouaga. Nous allons le faire à Bobo et nous allons le faire dans les autres régions du Burkina Faso.
Bala Sakandé s'est également entretenu avec Fatimata Sanou, la nouvelle médiatrice du Faso qui est venue se présenter et solliciter le soutien du président de l'Assemblée. Suivant le compte-rendu de Marina Ouedraogo avec la voix de Gilles Dasda.
Chez le président de l'Assemblée nationale, le médiateur du Faso vient pour une visite de courtoisie pour prendre conseil, mais aussi solliciter l'appui de Bala Sakandé pour la tâche de médiateur du Faso. Tâche essentielle dans la gestion de certaines crises impliquant l'administration publique. Et pour ce faire, l'institution que dirige Fatima Sanou peut demander le concours de l'Assemblée nationale.
Lorsque au cours de notre travail, nous constatons des dysfonctionnements, nous constatons des situations déplorables d'attirer l'attention de l'Assemblée nationale, entre autres, pour que de telles situations ne se répètent plus, pour remédier justement aux différents dysfonctionnements lors des différents votes de la loi, des règlements et même des textes administratifs. C'est de cela que nous avons parlé et nous avons donc exprimé toute notre disponibilité à nous référer à l'Assemblée nationale en cas de besoin et demander son appui justement pour nous aider à mener à bien ce travail pour le bonheur donc des citoyens qui nous font confiance et qui viennent vers nous espérant donc obtenir une amélioration du service public de l'administration.
Le médiateur du Faso a un rôle conciliateur et permet ainsi de rétablir le dialogue entre les administrations et les administrés. En rappel, c'est le 26 novembre dernier que Fatima Sanou a été nommée médiateur du Faso, poste auquel elle a remplacé Saran Sérémé.
Le ministre en charge de la Santé était ce vendredi 14 janvier 2022 chez le Mogo Naba. Professeur Charlemagne Ouédraogo est allé présenter ses vœux de nouvel an. Une occasion pour lui de solliciter le soutien des chefs coutumiers afin qu'ils sensibilisent la population sur la vaccination contre la pandémie de COVID-19. Compte rendu de Marina Ouédraogo et Bruno Bayala.
Charlemagne Ouédraogo chez le Mogo Naba demande un soutien de l'empereur des Mossé dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Le ministre de la Santé dit être venu présenter à Sa Majesté l'état actuel de la maladie au Burkina Faso.
Nous avons évoqué la situation épidémiologique et Sa Majesté a parlé donc de son accompagnement, a décidé de nous accompagner encore à travers les bons messages et surtout inciter l'ensemble de la communauté à s'impliquer dans la vaccination contre la COVID-19. Vous avez bien entendu donc le relais des messages qui étaient en faveur non seulement du respect des mesures barrières, mais aussi en faveur de la vaccination contre la COVID-19.
À cette rencontre, Charlemagne Ouédraogo explique que le Burkina Faso est le seul pays dans la sous-région qui a réussi à organiser une campagne de vaccination intensive contre la COVID-19 dans plusieurs régions dont le centre et le centre-ouest.
En 10 jours, nous avons pu vacciner environ 700 000 personnes contre la COVID-19. Ce qui fait qu'en fin d'année, nous étions à environ 1 170 000 personnes qui ont été vaccinées contre la COVID-19 avec les vaccins qui sont disponibles. Et cette vaccination a été gratuitement offerte à la population. Nous avons une cible de 70% de la population générale à atteindre d'ici décembre 2022. Et nous allons réorganiser d'autres campagnes. La prochaine campagne s'annonce pour autour de la mi-février 2022. Et presque tous les 2 à 3 mois, nous ferons une campagne qui permettra à ceux qui ont eu la première dose d'avoir leur deuxième dose dans les délais requis et inciter de nouvelles personnes qui n'ont pas été vaccinées à s'engager pour la vaccination contre la COVID-19.
À la date du 11 janvier 2022, le Burkina Faso a enregistré plus de 19 000 cas confirmés de la COVID-19 avec 339 décès. Se vacciner n'évite pas la COVID-19, mais permet d'éviter les formes graves de la maladie, rassure Charlemagne Ouédraogo.
Revenons au Mali. Aujourd'hui, voisin Louis Houlon décrit les sanctions suicidaires sur le Mali qui doit s'attendre à des jours très difficiles, avec en face une CDAO en position de force et toujours en perte de crédibilité. Suivons l'édito du jour.
Les ponts sont cassés entre la junte au Mali et la CEDAO. L'organisation sous-régionale voudrait mettre l'impertinent Assimi Goïta au pilori qu'elle ne s'y serait pas pris autrement. La batterie de sanctions enclenchée depuis les terres à Chantilly contre le pays de Soundiata Keïta ne laisse aucune chance à la junte de tenir debout. C'est la résultante d'un jeu de ping-pong entre l'homme fort de Bamako et les chefs d'État ouest africains. Un jeu de surenchère doublé de ruses dans lequel les locataires du palais de Koulouba à Bamako demandent grand pour gagner un bon morceau après avoir joué des prolongations de près d'un an. En demandant une transition de 5 ans, il se donne mine de rien 6 ans de règne, plus qu'un quinquennat constitutionnel. La CEDEAO a compris la manœuvre et a donc vite fait de siffler la fin de la partie et de quelle manière. Elle n'est pas allée du dos de la cuillère, cachant difficilement une envie de se venger, punissant au premier plan le peuple malien. En effet, celui qui va récolter les pots cassés, ce sera d'abord les Maliens, car les sanctions prises par le chef d'État d'Afrique de l'Ouest sont assez sévères, à la limite suicidaires pour les Maliens. Le Mali, déjà ébranlé par le terrorisme depuis près de 10 ans, doit faire face à une asphyxie économique doublée d'une menace d'intervention d'une force en attente de la CEDEAO. Affamer les Maliens, les amener à la révolte, intervenir militairement par la suite pour contraindre la junte à partir si besoin est, un véritable boulevard pour les terroristes en préparation. Les plans de la CEDEAO sont assez clairs et sans équivoque. Un triple front, terrorisme, grogne sociale, intervention militaire de la CEDEAO, front duquel la CIMI sortira difficilement son peuple par ricochet. Cette force en attente, qu'attend-elle d'ailleurs pour nettoyer la zone des trois frontières des groupes terroristes qui y pilulent? Nos princes ne sont pas encore réveillés. Disons qu'ils ne sont sensibles qu'à ce qui touche à leur trône, ni plus ni moins. Il fallait donc frapper pour stopper l'effet contagion du phénoménal Goïta, surtout que Conakry est fortement intéressé par les débats depuis le fleuve Djoliba. C'est bien de sanctionner celui qui ne donne pas l'exemple, mais quelle leçon Alassane Dramane Ouattara, par exemple, peut-il donner à Assimi Goïta, lui qui a tripatouillé la constitution de son pays? Incontestablement, la junte au pouvoir au Mali et la CEDEAO sont engagés dans un jeu de surenchère. Assimi Goïta, en demandant une transition de 5 ans, sait bien que la pilule ne passera pas. La CEDEAO sait aussi que ces sanctions sont cruelles pour le Mali, consciente par ailleurs que Goïta n'est pas garçon à plier les chines facilement. En plaçant chacun la barre à un niveau très haut, chaque parti espère une concession de l'interlocuteur d'en face et sans doute que les prochains meetings de la CEDEAO verront chacun lâcher du lest.
C'est ici que prend fin ce journal réalisé par Adama Konaté à la présentation Jamila Setopin. Merci à vous de l'avoir suivi et restez connectés sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct. L'invité du jour. L'invité du jour.
Bonjour Youssouf Kamara.
Bonjour Mariam.
Comment les Bamakois ont accueilli les sanctions de la CEDEAO sur le Mali?
Je dirais que les Bamakois ont accueilli les sanctions de la CEDEAO avec stupéfaction, même si déjà il y avait des prémices annonciateurs des sanctions. Et depuis l'avant-dernier sommet, ils avaient mis en garde les autorités de Bamako qui s'exposaient à des sanctions supplémentaires au cas où le chronogramme n'avait pas répondu à leurs attentes. Mais aujourd'hui, la décision a été prise, le peuple malien essaie d'y faire face avec détermination, mais aussi avec résilience. Donc, vous savez, le Mali, c'est un pays de croyance et il fait face déjà à des épreuves. Donc, ce n'est que des épreuves supplémentaires que nous sommes appelés à faire face. Dans l'ensemble, les sanctions sont perçues comme une agression contre le pays et en des pareilles circonstances, ça crée plutôt un sentiment de défense de la patrie face à ces sanctions. Ce sentiment patriotique qui est en train de se développer auprès de la population qui s'apprête même à sortir massivement demain pour organiser un grand rassemblement et montrer à l'opinion internationale que le peuple reste uni face à l'adversité.
Et comment les partis politiques ont réagi face aux sanctions contre le Mali?
Dans l'ensemble, les partis politiques se sont alignés à l'analyse globale de la population malienne. Donc, dans l'ensemble, les partis ont condamné les sanctions. Ils trouvent les sanctions disproportionnées par rapport à la situation déjà difficile du pays qui fait face à la crise sécuritaire et à la crise sanitaire. Donc, tout le monde trouve qu'ajouter des sanctions supplémentaires vraiment qui pénalisent surtout la population et non les dirigeants. C'est ça qui fait que même les partis politiques vraiment se sont, dans l'ensemble, prononcés en rapport à ces sanctions. Mais quand même, les partis ont aussi proposé aux autorités de revoir le chronogramme qu'ils ont annoncé. Parce que tout le monde est unanime que les 5 ans sont trop. Tout le monde est unanime aujourd'hui. Tous les partis politiques, que ce soit ceux qui soutiennent la transition, que ce soit ceux qui sont contre la transition, tout le monde est unanime que les 5 ans sont trop. Donc les partis politiques ont dans l'ensemble proposé aux autorités vraiment de revenir à des meilleurs sentiments, de rétablir le dialogue avec la CEDEAO, de maintenir le Mali dans les jurons des organisations internationales et surtout de revoir le calendrier électoral et proposer vraiment un délai raisonnable. Certains ont parlé de 6 mois, d'autres ont parlé d'une année au maximum. Selon nos dernières informations, le gouvernement travaille sur un plan de sortie de crise. On espère qu'il y aura un chronogramme à l'issue de ces documents.
Comment réagissent les commerçants qui ne peuvent pas exporter leurs produits au Burkina, au Niger, en Côte d'Ivoire et d'autres pays?
Bon, par rapport au commerce, comme vous le savez, le Mali c'est un pays de commerce. Il y a beaucoup de commerçants. Mais en général, le Mali exporte peu. Et dans la sous-région, le principal produit d'exportation reste le bétail. Et par rapport à ces sanctions de la CEDEAO, l'interprofession de la filière bétail est même montée au créneau. Ils ont fait un communiqué pour appeler tous les membres, tous les exploitateurs de bétail, vraiment à se conformer à la mesure de réciprocité des autorités maliennes, en suspendant jusqu'à nouvel ordre les exportations de bétail malien sur pied. Donc à part ça, les autres commerçants, ceux qui font les petits commerçants entre les deux pays, attendent de voir comment va évoluer la situation. Dans l'ensemble, quand même, les opérateurs économiques, quand même, se sont engagés vraiment à accompagner l'État, à rester vraiment fidèle aux engagements pris par l'État. Et les gros importateurs aussi ont décidé vraiment, de conformément à la demande de l'État malien, de se tourner vers les ports ouverts, notamment le port de Nouakchott, le port de Conakry, pour vraiment leurs importations. Et par rapport à ça, même, il y a un gros opérateur économique qui a mis 500 camions à la disposition de l'État malien. Donc pour vraiment, éventuellement, s'il y a des stocks dans ces ports, vraiment pour aider l'État malien à acheminer ses marchandises.
Avec le gel des avoirs, la suspension des transactions financières et autres financements, comment ces sanctions-là se font ressentir par les populations maliennes? Je veux dire, est-ce que cela n'a pas créé des mouvements de foule dans les banques?
Non, pas forcément. Actuellement, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas même de grande affluence dans les banques. Les banques travaillent comme dans un moment ordinaire. La situation n'a pas grand changé. Même ce matin, j'ai fait le tour de certaines banques. Vraiment, dans l'ensemble, c'est toujours le travail quotidien qu'ils font. Il n'y a pas de grands mouvements, il n'y a pas d'affluence particulière. Seulement, il faut retenir que, comme vous le savez, le Mali, ce n'est pas un pays où le taux de bancarisation est aussi élevé que ça, comparativement aux autres pays de la sous-région. Et le gros de la clientèle, ce sont les salariés, ensuite les opérateurs économiques en principe. Mais ce qui est sûr, quand même, l'inquiétude est là.
Au Conseil des ministres du mercredi 12 janvier, il a été question de la création des nouveaux régiments de détachement de génie militaire et des centres de formation et de commandement. Selon vous, quels seront les atouts de cette décision prise?
Comme vous le savez, les questions sécuritaires sont des questions un peu sensibles. Mais ce qui est quand même évident, c'est que le départ de Barkhane ou la réorganisation de Barkhane a créé un vide sur le territoire malien. Et vous savez que le Mali, c'est un pays vaste et l'armée malienne n'a pas vraiment suffisamment de moyens pour occuper le territoire dans son ensemble. Donc maintenant, avec le départ de Barkhane, il y a des vides qui se sont créés dans beaucoup de localités. Donc maintenant, l'armée malienne essaie vraiment de s'adapter à la nouvelle donne, de mettre en place une stratégie organisationnelle pour mieux quadriller le terrain et faire face vraiment à la lutte contre le terrorisme et à l'insécurité grandissante dans plusieurs localités. Je crois que ces aménagements s'inscrivent dans cette dynamique pour vraiment assurer la montée en puissance de l'armée malienne et rendre plus efficace son opérationnalité sur le terrain et faire face vraiment au vide créé par le départ de Barkhane ou la réorganisation de Barkhane.
Youssouf Camara, merci.
Merci à vous aussi.
C'était l'invité de la rédaction.